Bonjour, mes frères et mes sœurs. Êtes-vous prêts à faire face à l'avenir? Pouvez-vous regarder devant vous et ne pas craindre l'avenir? Autrement dit, le pire est encore devant nous, vous le savez. Mais la plupart du temps, les gens craignent déjà le présent. Si, aujourd'hui, vous avez peur de ce qui se passe, que ferez-vous demain lorsque les choses vont empirer? Voyez-vous, ce sermon n'est pas un sermon négatif. Je ne vais pas vous effrayer. Seulement, je vais vous parler de la Bible, car la Bible parle très clairement de l'avenir. La Bible nous dit ce qui va se passer. Et nous voyons déjà aujourd'hui comment les événements se déroulent à une allure affolante, de façon, je dirais, désagréable, je dirais même pire que désagréable, de façon à nous effrayer. La plupart des gens aujourd'hui ont peur de l'avenir, craignent l'avenir. Et je vous dis, mes frères et mes sœurs, que l'avenir est encore pire qu'on le pense. Je ne veux pas être négatif, je vous le répète. Seulement, il faut savoir, il faut être prêt. Si aujourd'hui vous savez ce que vous devez faire, si aujourd'hui vous connaissez les prophéties bibliques, si vous êtes prêt, vous n'allez pas vous effrayer lorsque les événements arrivent. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Même à travers l'Église, à travers les âges, lorsque les choses sont allées mal, les gens se sont détournés de Dieu. Les gens ont quitté leur Église en quelque sorte, ou bien je dirais, ont quitté leur rapport avec Dieu. Le fait est que, à travers la Bible nous met en garde de ce qui peut se passer. Ensuite, nous montre aussi clairement qu'il y a l'adversaire, c'est-à-dire Satan le diable, qui fera tout pour nous décourager. Vous, en tant que membre de l'Église, vous, en tant que des êtres qui ont reçu le Saint-Esprit, vous qui croyez à la Bible, vous ne devez jamais craindre l'avenir. Et pourtant, vous devez vous y préparer. Vous devez être prêt à toute éventualité avec courage, avec amour à l'égard de Dieu, sachant que Dieu vous aime, que Dieu va vous protéger. Il y a quelque temps, je me rappelle, j'avais fait un sermon intitulé « Êtes-vous prêt au pire ?» C'était un sujet négatif. Je ne vais pas dire « Êtes-vous prêt au pire ?» mais ça, c'est la question que je vous pose. Car la Bible nous montre que nous devons, je répète, être prêts à toute éventualité, au meilleur et au pire, si vous voulez. Vous êtes-vous jamais demandé, je suis sûr que la réponse est affirmative, ce qu'est la vie? Pourquoi sommes-nous nés? Qu'est-ce qu'on fait ici? Quel est l'avenir en ce qui concerne votre avenir, mon avenir? Que va-t-il se passer demain? Vous ne le savez pas. Moi, je ne le sais pas. Regardez ce que l'apôtre Pierre a écrit dans sa première épître, chapitre 1, verset 24. C'est intéressant parce que l'apôtre Paul nous montre déjà la futilité de l'avenir. Laissez-moi commencer par verset 23. Il dit, vous avez été régénéré. Le mot régénéré donne déjà du courage. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23. Vous avez été régénéré. Non pas par une semence corruptible. Voyez-vous, ce monde, comme vous le savez, est en quelque sorte physique et spirituel. Nous sommes pour le moment tous physiques. Un jour, nous serons spirituels. Pour le moment, nous sommes corruptibles. La semence que nous avons, c'est corruptible, car tout est sur le plan physique. Mais l'apôtre Pierre écrit, vous avez été régénérés, fortifiés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Mais c'est quoi ça? C'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit de Dieu, après votre repentir, après votre baptême, vous avez donc une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces phrases, cette force. La parole de Dieu, permanente, vivante, et ensuite, après avoir dit ceci, regardez ce que l'apôtre Pierre ajoute, « Car, dit-il, toute chair, voilà votre semence corruptible, toute chair est comme l'herbe. » Vous regardez l'herbe, c'est beau, mais aujourd'hui l'herbe est, et demain, elle ne l'est plus. C'est ce que l'apôtre Pierre dit, « Toute chair, dit-il, est comme l'herbe, Toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. C'est beau, une fleur, mais ça dure combien de temps? L'herbe sèche, la fleur tombe. Verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. C'est incroyable comme l'apôtre Pierre met cela au clair. Il montre la beauté de l'herbe, la beauté de la, des fleurs. Ensuite, aussi, je dirais, combien de temps ça dure. C'est éphémère tout ça. Méditez la parole de Dieu. Vous avez été annoncé par l'Évangile et cette parole demeure éternellement. Voici où nous en sommes. Jacques, l'apôtre Jacques, de son côté, fait la même déclaration. Les apôtres ont passé par là. Ils savent ce que c'est. Ils ont vu les souffrances humaines. Mais ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas craint l'avenir comme certains d'entre nous craignent l'avenir. Ils ont fait face à l'avenir avec courage. Voilà pourquoi je vous dis, êtes-vous prêts au pire? Êtes-vous prêts à l'avenir, mais avec une attitude positive? Jacques dit, chapitre 4, verset 13, « À vous, dit-il maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous passerons une année, etc. Autrement dit, nous trafiquerons. Vous faites des projets, c'est bien. C'est bien de faire des projets. Seulement, sachez que tous vos projets dépendent quand même de la volonté de Dieu. » Et l'apôtre Jacques ajoute, « Vous qui ne savez pas, verset 14, chapitre 4, Jacques, verset 14, « Vous qui ne savez pas, dit-il, ce qui va se passer demain, vous êtes une vapeur. » 14, verset 14, « Vous êtes une vapeur d'étude qui paraît pour un peu de temps et ensuite qui disparaît. Vous donc voudriez dire, dit-il, au contraire, si Dieu le veut. » Alors, voilà déjà une recommandation de base. Dans toute chose, mettez Dieu dans votre esprit, dans votre cœur. Autrement dit, dirigez vos pensées vers Dieu. Si, face à vos soucis, face à vos craintes, vous pouvez incorporer le nom de Dieu et mettre dans votre cœur, dans votre esprit, que Dieu est avec vous, vous avez déjà le courage dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Voilà pourquoi lorsque vous pensez à l'avenir, pensez à l'avenir en tenant la main de Dieu dans la vôtre. Eh oui, Dieu est toujours là. Tenez-lui la main. Marchez avec lui. Si vous marchez avec lui, vous n'aurez pas crainte de l'avenir. Certes, vous aurez cet avenir quand même devant vous, mais vous savez que lui, il est toujours là à vous aider, à vous protéger. Je vous dis ceci, voyez-vous, car j'ai vu par le passé, lors de mon ministère, que certaines personnes dans l'Église même, lorsque les choses vont mal, elles se détournent de Dieu, elles se détournent de l'Église. Ces gens-là quittent l'Église en disant non, ce n'est plus l'Église. Mais au contraire, ce sont des preuves que c'est l'Église de Dieu, car nous savons que Satan le diable nous persécute, voudrait anéantir chacun de nous. Par contre, je le répète, nous ne devons pas craindre Satan. Nous ne devons pas craindre l'avenir. Et surtout, nous ne devons pas douter de Dieu lorsque les choses vont mal. Non, nous ne devons jamais nous détourner de Dieu ni quitter son Église. Il y a des gens qui m'ont dit, ces derniers temps surtout, lorsque nous avons eu quelques problèmes au sein de l'Église même, écoutez, c'est plus l'Église. Alors, chacun commence à avoir ses propres idées. Ou alors, certains quittent l'Église. Mais comment pouvez-vous quitter l'Église lorsque vous avez le Saint-Esprit de Dieu? C'est quoi l'Église? L'Église, c'est le corps du Christ. Donc, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez jamais quitter l'Église. Certes, vous pouvez quitter une institution physique, mais ce faisant, voyez-vous, vous êtes en danger car vous ne comprenez plus ce que c'est que l'Église. La véritable Église, vous ne pouvez jamais la quitter. L'Esprit de Dieu, si vous l'avez reçu, vous guidera, vous aidera à rester toujours solide dans ce corps du Christ. Mais vous direz, quelle garantie avons-nous? Prenez la Bible. Vous êtes-vous jamais demandé ce que c'est que la Bible? La Bible, c'est beaucoup de choses. Les enseignements de Dieu, d'accord. L'histoire du monde, d'accord. Les prophéties, d'accord. Mais la Bible, c'est en même temps un livre d'avertissement. La Bible vous dit ce qui va se passer. La Bible vous avertit d'avance les événements à venir. Et la Bible nous dit comment nous préserver du mal. C'est ça la Bible. Beaucoup de personnes oublient ces enseignements de base. À l'époque de l'apôtre Paul, les gens avaient ces mêmes problèmes. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Regardez comment l'apôtre Paul réagit face à ces gens-là. Imaginez, le Christ était mort peut-être une vingtaine d'années plus tôt. Et voilà qu'une vingtaine d'années après la mort du Christ, à peu près, les gens se détournent déjà de la vérité, commencent à douter du Christ, commencent à se demander où est la vérité. L'apôtre Paul écrit, 1 Corinthiens, Épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 10, « Je vous exhorte, frère, dit-il, je vous exhorte par le nom de notre Seigneur, à tenir tous un même langage. » Vous ne pouvez pas dire, voilà ce que je pense. Ce que vous pensez n'est pas important. Ce que Dieu pense, c'est ça qui compte. Et si vous faites ce que Dieu pense, ce qu'il vous dit, vous n'aurez jamais peur de l'avenir. Il dit, à ne point, toujours verset 10, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, à ne tenir, dit-il, à tenir tous un même langage, à ne point avoir des divisions parmi vous. Ce mot division, c'est ce que Satan cherche au sein de l'Église. Repoussez Satan, accrochez-vous à Dieu, tenez sa main. Mais dit-il, à être parfait, parfaitement uni, dans un même esprit, dans un même sentiment. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Si vous avez ces sentiments, si vous tenez la main de Dieu, vous ne craindrez jamais. Et aussi, en même temps, vous ne pourrez jamais quitter Dieu. Vous ne pourrez jamais quitter sa véritable Église. Je dis bien sa véritable Église, car il y a beaucoup d'Églises de par le monde. Le fait est que comment savoir si nous sommes dans la véritable Église? La réponse, toujours d'après la Bible, est simple. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous avez vraiment, vous vous êtes repenti de vos péchés, vous êtes membre du corps de Christ. Vous faites partie du corps de Christ. L'Église, c'est le corps du Christ. Si le corps du Christ est séparé de Christ, ce n'est plus l'Église. Ce sont des vérités de base, mes frères et mes sœurs. Mais lorsque les choses vont mal, lorsque vous voyez les catastrophes autour de vous, ne dites pas « ce n'est plus l'Église » ou bien « Dieu n'est pas avec nous » et cherchez la vérité ailleurs. Ce faisant, vous vous détournez de la vérité. Notez-le. L'un des plus beaux chapitres dans le Nouveau Testament, c'est Jean 15. Jean 15 vous explique ce que je suis en train de vous expliquer maintenant d'une façon tellement claire, tellement lucide. L'apôtre Jean était l'apôtre qui était proche du Christ. Vous savez, parfois on a des amis, parfois on est plus intime avec certains amis et moins avec d'autres. Nous devons aimer tous. Le Christ aimait tous ses disciples. Mais il avait quand même une certaine préférence pour l'apôtre Jean. C'est bien, c'est formidable. C'est bien d'avoir des amis intimes. Ici, l'apôtre Jean, qui connaissait très bien le Christ, nous donne exactement ce que je suis en train de vous expliquer, ce que c'est qu'être dans l'Église, ce que c'est que s'accrocher à l'Église, ce que c'est que de ne pas vous détourner de l'Église lorsque les choses vont mal. Et je répète, mes frères et mes sœurs, les choses iront mal sans être pessimistes. Regardez autour de vous. Regardez déjà les changements que nous avons connus depuis 20 ans. Si vous avez 20 ans, évidemment. Mais nous autres qui avons passé cet âge, lorsque nous regardons en avant, nous ne pouvons pas croire les changements qu'il y a eu en ce bas monde, des changements vers le pire. Et les choses iront encore plus mal. Voilà pourquoi je vous répète, je dis, êtes-vous prêt à l'avenir? Êtes-vous prêt au pire? Sans perdre courage. Je dirais même, en vous approchant davantage de Dieu. Jean chapitre 15. Jean dit, je suis le Christ de Dieu, je suis le cep, le vrai cep. Là encore, ce petit mot vrai vous explique déjà la vérité. Le vrai cep, et non pas une imitation comme Satan voudrait vous faire croire. Et le père, dit-il, est le vigneron. Souvent dans la Bible, vous voyez des exemples physiques afin de nous expliquer la vérité sur le plan spirituel. Ensuite, Jean écrit tout ça à moi, et nous sommes donc les serments qui est en moi, dit-il, et ne porte pas de fruits, mon père le retranche. Tout serment, dit-il, qui porte du fruit, mon père l'émonde. C'est encore des exemples physiques. Autrement dit, le Père, Dieu le Père et le Christ seront là pour nous aider à croître, à avancer. Ensuite, dit-il, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Là encore, tâchez de comprendre. Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous êtes en quelque sorte purs. Mais nous marchons vers la perfection, vers la pureté. Nous sommes toujours des êtres charnels. Et vous, le matin, lorsque vous vous levez, vous tous, moi, nous avons toujours des doutes, des craintes. Tant que nous ne sommes pas purs, nous ne sommes pas encore parfaits. Mais si nous marchons avec Dieu, main dans la main, nous aurons de moins en moins crainte et de plus en plus confiance en Dieu. De ce fait, on peut dire, nous devenons de plus en plus purs. Ensuite, l'apôtre Jean donne la raison pour laquelle nous devons être courageux et comment y parvenir. Verset 4, Jean 15, « Demeurez en moi, à moi, dit-il, c'est le Christ qui parle, je demeurerai en vous. » Regardez-moi cette phrase. « Si je demeure en Christ, le Christ demeure en moi, alors de quoi aurais-je peur? Que craindrais-je? Qu'est-ce qui peut me faire du tort? » Et ce même commandement se répète à plusieurs reprises dans Jean 15. Vous n'avez qu'à lire, je ne vais pas lire le tout. Mais le Christ a dit par exemple, verset 5, « Je suis le vrai cep. » Il répète, « Vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, dit-il, porte beaucoup de fruits. » Voilà des vérités. Avec ces vérités, vous ne pouvez pas craindre l'avenir. Certes, vous aurez de temps en temps des doutes. Ça, c'est normal, c'est humain. Mais vous en sortez directement, vous en sortez facilement. Et vous saurez que les projets que vous faites, que ce soit fixe ou non dans votre esprit, que ces projets se réalisent ou non, vous avez quand même un avenir qui est permanent, qui est éternel, un avenir qui est sûr. Et cet avenir est basé sur la foi en Christ, sur la parole du Christ. Donc, quelle que soit cette vie terrestre, vous avez vos yeux sur la vie éternelle. Ce faisant, vous ne craindrez pas le présent. Je répète et je répéterai, êtes-vous prêt à faire face au pire? Préparez-vous à l'avenir, non pas avec crainte, mais avec certitude. Préparez-vous à l'avenir en disant que je sais que Dieu est avec moi. Et surtout, si vous êtes dans la vérité, si vous êtes accroché au Christ, vous ne pouvez jamais vous séparer du Christ. Aujourd'hui, vous avez je ne sais pas combien de milliers de religions de par le monde. Mais il y a un seul Dieu, il y a un seul Christ. Et le Christ a un seul corps. Si donc le Christ est votre guide, s'il est le cep dans votre vie, si vous accrochez à ce cep, vous ne pouvez jamais quitter le Christ. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années au sein de l'Église. Les gens se demandaient où est le Christ. Mais écoutez, ne vous demandez pas où est le Christ. Le Christ est toujours là. Si vous faites sa volonté, si vous suivez ses enseignements, de Genèse à l'Apocalypse, vous ne pouvez jamais quitter l'Église. car l'Église ira là où le Christ va. L'Église sera là où le Christ est. Voilà pourquoi, je répète, il n'y a pas de raison de dire « mais je ne sais pas où est la vérité ». La vérité, c'est en Christ, et la vérité, c'est en vous si vous demeurez en Christ. Je tâche de faire ce sujet très important, car les jours viendront où les gens se demanderont « mais où est l'Église de Dieu ?» Parce que l'Église de Dieu n'a pas la garantie comme quoi nous serons protégés contre tout mal, non. Satan est toujours là, Satan va nous attaquer. Satan va faire les choses à ce que à être découragé. Mais ne soyez jamais découragé, car Dieu est beaucoup plus fort que Satan. Satan n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Voyez ce qui s'est passé à l'époque de Jean. Jean chapitre 6. Ce sont ces vérités-là que le Christ a enseignées aux apôtres, et ce sont ces vérités même que les apôtres nous enseignent, et nous voyons ce que nous appelons aujourd'hui à travers la Bible. Jean a parlé de cela. Jean a parlé de Dieu le Père en disant que c'est Dieu le Père qui nous appelle. Et c'est vrai, Dieu nous appelle, le Christ nous choisit, Jean chapitre 6, entre guillemets, mais continuons. Ensuite, une fois que Dieu nous appelle, nous devons croître dans la grâce et la vérité. Le Christ est venu dire qu'il est le pain de la vie. Autrement dit, il nous a montré que nous devons vraiment nous accrocher à la nourriture qu'il nous donne. Nous devons nous nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça être le pain de la vie. Donc, si nous vivons de la chair du Christ, au figuré, je parle maintenant, nous n'aurons pas peur de l'avenir. Nous ne craindrons rien. Nous aurons cette certitude. Et nous serons surtout sûrs que nous faisons partie du corps du Christ. Le Christ a parlé de cela dans Jean 6. Il dit, je suis, dit-il, le pain de la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Certains disciples plutôt, n'ont pas compris cela. Ils ne savaient pas ce que c'est que le Christ d'être le pain de la vie et comment nous devons manger de sa chair. Alors, ils ont pris une décision. Laquelle? La mauvaise, la pire. Puisque je ne comprends pas, ben je m'en vais ailleurs chercher la vérité quelque part ailleurs. Voilà ce que vous devez craindre. Si vous ne comprenez pas quelque chose dans la Bible, tâchez de la comprendre, de demander à quelqu'un d'autre qui le sait, un ministre de Dieu s'il le faut. Mais Dieu vous aidera à comprendre. Mais lorsque vous vous détournez en disant « je vais chercher la vérité ailleurs », dans ce cas-là, vous prenez le mauvais chemin. Regardez, le Christ a parlé dans Jean 6, je répète, de ce qu'il est la vérité, de ce qu'il est le chemin, de ce qu'il est la résurrection, de ce qu'il est le pain de vie. Alors, lorsqu'il a parlé d'être le pain de vie, plusieurs, ils n'ont pas été d'accord avec le Christ. Verset 66, Jean 6, 66. Dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec le Christ. Regardez voir ça. Je répète, lorsque vous ne comprenez pas quelque chose qui est dans la Bible, ce n'est pas une raison pour vous détourner de Dieu. Au contraire, vous devez vous approcher de Dieu davantage, prier davantage, mettez-vous à genoux davantage, demandez à Dieu de vous aider à comprendre. Ne faites pas comme ces disciples qui sont détournés. Les vrais apôtres du Christ ne sont pas détournés de lui. Eux aussi n'ont pas compris ce que c'était que pour le Christ d'être le pain de la vie. Ils n'ont pas compris. Mais ils sont restés avec le Christ. Et lorsque le Christ a demandé à ses disciples, « Et vous, verset 67, Jean 6, 67, et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Le Christ est toujours là pour nous aider. Mais nous avons tous la liberté de prendre la décision que nous voulons prendre. Alors l'apôtre Pierre a eu la bonne réponse. Il a dit, « Seigneur, à qui irions-nous » Voilà la question que vous devez vous poser. Vous n'êtes pas d'accord avec les changements dans l'Église, vous n'êtes pas d'accord avec les événements qui se passent, vous n'êtes pas d'accord avec la parole du Christ, et vous les cherchez ailleurs, vers qui irions-nous? Si certains d'entre nous avaient pris ces versets à cœur, ils seraient restés dans le corps du Christ. Ils n'auraient pas cherché ailleurs le corps du Christ. Certes, il y a beaucoup de gens qui prêchent, entre guillemets, la vérité. Certes, il y a certaines églises qui prétendent être l'église de Dieu. Mais la seule façon de distinguer l'église de Dieu, c'est de chercher là où le cep est, le Christ est. Et si le Christ est là, vous vivez de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous ne dites pas, voilà ce que je pense. Nous, en tant que membres de l'Église, nous célébrons les fêtes de l'Éternel. Comment pourriez-vous dire, je suis membre de l'Église de Dieu, et abandonner l'observance des fêtes de l'Éternel? Je vous pose la question. Ou encore, nous, dans l'Église de Dieu, nous savons que le sabbat est le jour du repos, sanctifié par Dieu. Et nous l'observons. Comment pourriez-vous dire que vous êtes dans l'Église de Dieu et abandonner l'observance du sabbat? Voilà des exemples. Ne dites pas « je ne comprends pas ». La Bible est simple. Vous la comprendrez si vous suivez les enseignements donnés, non pas d'après votre façon d'observer la loi, mais d'après la façon divine de l'observer. Continuons. Donc, ces apôtres, ces disciples plutôt, ont quitté le Christ. Tandis que Pierre et les autres apôtres sont restés avec le Christ. Dans Jean, aussi chapitre 6 toujours, regardez voir ce que le Christ déclare. Jean 6, verset 43. Il dit, « Ne murmurez pas, dit-il, entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Regardez voir cette phrase. Regardez voir encore cette promesse. La promesse du Christ, c'est que si Dieu vous appelle, et nous sommes ici car Dieu nous a appelés, et que si nous continuons jusqu'à la fin, jusqu'au bout, nous serons ressuscités à la vie éternelle. Mais c'est ça le but de la vie. C'est ça, c'est cette raison pour laquelle nous sommes ici. Nous devons un jour changer de ce corps, de ce que nous sommes, d'être physique, et devenir des êtres spirituels. C'est cette promesse que Dieu fait dans Jean chapitre 6. Mais pour cela, il faut que vous vous accrochiez à la vérité. Il ne faut pas vous détourner de la vérité si les choses vont mal. Le royaume de Dieu n'est pas encore établi sur cette terre. Malgré ce que vous entendez, là encore, voyez, vous cherchez la vérité. Il y a des gens qui, sincèrement, sont chrétiens, qui disent, le royaume de Dieu est déjà ici. Non, le royaume de Dieu n'est pas encore établi sur cette terre. Car le roi de ce royaume n'est pas encore sur cette terre. Le Christ reviendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs sur cette terre pour gouverner toute la terre. Et alors, les gens comprendront. Mais que nous qui sommes membres de l'Église de Dieu, nous savons cela. Nous restons toujours accrochés au Christ, à cette vérité. Et nous serons avec lui pour aider le reste de l'humanité à comprendre ces simples vérités. Pour le moment, nous sommes des êtres engendrés de Dieu, pas encore nés. Voilà pourquoi le royaume de Dieu n'est pas encore ici-bas. Commencez-vous à comprendre. Savez-vous quel a été le premier mensonge proféré en ce bas monde? Qu'est-ce qui a proféré ce mensonge? Genèse chapitre 3. Satan le diable. Dieu avait dit au premier couple que le couple devait lui obéir et cultiver la terre et vraiment observer les commandements de Dieu. Et que si le couple se détournait de Dieu, ou transgresser la volonté de Dieu, que l'homme mourrait. Donc, automatiquement, nous savons déjà que l'être humain n'a pas été créé immortel. Comment pouvez-vous être immortel si vous mourrez? Dieu a dit au premier couple, Adam et Ève, donc s'ils prenaient du fruit défendu, ils mourraient. Satan a dit le contraire. Il dit, non, dit-il, si vous prenez, Genèse chapitre 3, vous n'avez qu'à lire, Dieu sait que vous vivrez. Et Dieu vous cache en quelque sorte ce qui est meilleur pour vous. Ça encore, c'est un autre mensonge satanique. Dieu ne nous cache jamais ce qui est bon pour nous. Dieu ne nous prive jamais de ce qui est bon pour nous, jamais. Dieu est toujours disposé à nous donner ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est le meilleur. C'est nous qui nous en privons en nous détournant du bon chemin. Tant que le couple a cru à Satan, ils ont pris du fruit défendu et sont morts. Étrange. C'est ce mensonge du premier, dès le commencement, qui aujourd'hui paraît encore aux yeux des gens comme étant de la vérité. Car presque toutes les églises du monde prêchent que nous avons une âme immortelle. Et pourtant, Dieu a dit à plusieurs reprises, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comment allez-vous à comprendre comment être accroché à la vérité? Comment être prêt à vraiment croire en Dieu et faire sa volonté? Aujourd'hui, je répète, il y a tellement de confusion au sein du christianisme. Il y a tellement de confusion au sein de la société. Regardez la société, la corruption qui entre dans les mœurs. Mais ce qui est encore vrai, c'est que demain, ce sera pire. Voilà pourquoi je vous pose la question, êtes-vous prêt au pire, sans craindre? Si vous êtes avec Dieu, si vous croyez en Dieu, si vous faites sa volonté, vous ne craindrez jamais, je dis bien jamais, l'avenir. Mais vous vous préparez à l'avenir. Quelle garantie avez-vous, vous, moi, que nous serons encore demain vivants? Aucune garantie, vous avez vu. Mais comment est-ce que nous pouvons être sûrs que nous avons l'Esprit de Dieu? Voilà encore une autre question. Il y a beaucoup de gens qui posent ces questions. Comment, je rencontre beaucoup de gens qui disent, je suis converti, j'ai l'Esprit de Dieu. Bon, comment pouvez-vous le prouver? C'est simple. Une fois encore, la vérité est très simple. Vous pouvez prouver que vous avez l'Esprit de Dieu lorsque vous observez les commandements de Dieu. Sans exception. Lorsque vous faites ce que Dieu vous dit. Lorsque vous vivez de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Et ce faisant, automatiquement, donc, vous vous repentirez de vos péchés, vous vous ferez baptiser, car vous faites ce que Dieu vous dit. Et c'est alors, et alors seulement, que vous pourrez dire que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Actes, chapitre 5. Actes, chapitre 5, verset 32. Là encore, ce sont de simples vérités. La Bible ne se contredit jamais. Donc, si vous cherchez une vérité dans un passage quelconque, ailleurs, cette vérité ne sera pas démentie, aucunement. Ce que je viens de vous dire maintenant, c'est prouvé une fois encore dans Actes, chapitre 5, verset 32. Alors, nous sommes, Actes 5, 32, nous sommes témoins de ces choses auparavant, donc, ici, nous voyons ce que c'est que la vérité et comment suivre Dieu. De même, dit-il que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Regardez voir cette phrase. Regardez voir ce verset. Le Saint-Esprit de Dieu est donné à ceux qui lui obéissent. C'est la même instruction que le Christ a donnée en disant, vous demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ce faisant, vous ne craignez pas l'avenir. Ce faisant, vous ne dites pas où est l'Église de Dieu. Ce faisant, vous savez que vous êtes membre de l'Église de Dieu, et que là où le Christ est, vous serez avec lui. C'est simple. Et pourtant, c'est difficile. C'est difficile car Satan vous tâchera de vous convaincre autrement. Ne permettez pas à Satan de vous détourner de la vérité. Continuons. L'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse, d'amour, de courage. 1 Timothée, 2 Timothée, chapitre 1. Nous savons ces choses. Nous savons ces choses, mais nous les oublions lorsque les choses se gâtent. Mes frères et mes sœurs, nous devons nous les rappeler lorsque les choses se gâtent. C'est à ce moment-là que nous devons avoir cette certitude, et non pas lorsque les choses vont bien. Il est facile d'être chrétien quand tout va bien. Mais lorsque nous faisons face à l'adversité, lorsque nous souffrons, c'est à ce moment-là que nous devons faire preuve de courage. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Parce que ce courage nous vient du Saint-Esprit. Parce que Dieu est avec nous. Parce que nous tenons la main du Christ. Nous marchons avec lui. Nous n'aurons pas peur de l'avenir. 1 Timothée chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité. On parle maintenant de l'esprit de Dieu. Mais, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Si vous avez la force, vous ne craignez pas l'adversaire. Un esprit d'amour. Si vous avez de l'amour dans votre cœur, vous aimez votre prochain. Vous aidez votre prochain. Vous aimez votre prochain comme vous-même. Et avec l'amour que le Christ a aimé. Donc, ce faisant, vous n'aurez pas peur de l'avenir. Un esprit de sagesse. Sagesse, ce manque en manque lamentablement. Certes, il y a beaucoup d'intelligence de par le monde. Les gens sont très intelligents et peuvent faire de grandes choses. Mais intelligence et sagesse ne sont pas synonymes. La sagesse vient de l'Esprit de Dieu. La sagesse est du domaine spirituel. Tandis que l'intelligence est du domaine physique. Voilà pourquoi beaucoup de gens de par le monde sont très, très intelligents. Mais cette intelligence ne les guide pas dans la vérité. Cette intelligence ne leur permet pas de savoir où est le Christ. Pour savoir où est le Christ, où est le cep, c'est de vous soumettre à la volonté de Dieu. Oui, les jours devant nous sont difficiles, sont même pire que l'humanité n'a jamais connu. Vous avez souvent lu, moi-même je me suis souvent servi, d'un chapitre entier dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où le Christ nous parle du présent et de l'avenir d'une façon prophétique. Je me réfère maintenant à Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, c'est le plus grand chapitre, le plus long chapitre dans le Nouveau Testament, que le Christ, où le Christ parle de la prophétie. D'abord, tâchez de comprendre la vérité ici. Beaucoup de gens aujourd'hui ne pensent pas que le Christ doit revenir. Matthieu 24 déjà commence par cette attitude, par cette certitude, je dirais, que le Christ reviendra. Notez-le, le Christ était avec ses disciples sur la montagne des Oliviers, Matthieu 24. Il était assis avec eux, il parlait avec eux. Et les disciples lui demandent, écoutez, s'il était déjà avec eux, comment le Christ peut vous demander quand est-ce que tu viendras? Mais il est déjà là. Donc, automatiquement, la question qu'on lui pose, c'est quand est-ce que tu reviendras? C'est ainsi que le Matthieu 24 commence. Le Christ leur enseignait. Alors, les disciples lui posent la question. Ils disent, quand est-ce que tu viendras? Voyez-vous? Il est là, je répète. Et quel sera donc le signe de la fin du monde? Il était sur la montagne des Oliviers, verset 3, Matthieu 24. C'est pas, il dit, dis-nous quand cela arrivera. Maintenant, je prends exactement le verset biblique. Et quel sera le signe de ton avènement? Certainement, il parle du second avènement de Christ. Et la fin du monde. Et qu'est-ce que le Christ a dit? Quel est le premier avertissement qu'il donne? Il dit, prenez garde. Intéressant, car c'est la première remarque qu'il fait. Prenez garde, dit-il, que personne ne vous séduise. Car si vous êtes séduit, vous quittez le cep. Vous cherchez ailleurs l'Église de Dieu. Vous quittez l'Église de Dieu pour tâtonner dans l'obscurité. Donc, aujourd'hui, lorsque vous regardez autour de vous, il y a pas mal de gens qui prêchent au nom du Christ. Et le Christ dit, prenez garde car des plusieurs viendront sous mon nom. Verset 5. En disant que je suis le Christ, me dit-il, ils séduiront beaucoup de gens. Ensuite, il nous met en garde, me dit-il, vous ne devez pas être séduits. Si vous êtes séduits, vous craignez l'avenir. Si vous n'êtes pas séduits, vous avez la force de faire face à l'avenir avec courage. Ensuite, le Christ donne, comme vous savez, les événements qui vont se succéder. Lisez Matthieu 24 de temps en temps. Vous l'avez vu, d'accord, mais relisez. Car chaque fois que vous relisez ces versets, vous aurez une meilleure compréhension de ce qui va se passer, en même temps, comment le Christ va vous protéger. Le Christ parle de guerre, de bruit de guerre, des émeutes, des révoltes, des divisions, des batailles entre les nations. Ensuite, il dit, on vous tourmentera, verset 8, verset 9. Et dit-il, plusieurs, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Pourquoi est-ce que le Christ répète cela? Cet avertissement se répète à plusieurs reprises dans les paroles du Christ. Il commence déjà à dire, écoutez, faites attention en ce qui concerne les faux prophètes. Et il dit à nouveau, juste avant que le Christ revienne, ou bien les choses se gâtent, il dit, prenez garde aux faux prophètes, parce que, dit-il, l'iniquité se sera accrue dans la charité, autrement dit, le péché augmentera sur cette terre, le plus grand nombre se refroidiront. Ça veut dire quoi? Regardez autour de vous. Quelle est aujourd'hui la vie de famille? Quelles sont les familles qui sont vraiment heureuses? Comment est-ce que les adultes prennent soin de leurs enfants? Combien d'adultes abattent leurs parents, selon les journaux, selon les nouvelles que nous recevons? Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour entre les couples. Pas d'une façon générale. Il n'y a pas d'amour entre les individus. Donc l'amour du plus grand nombre, comme Christ a dit, s'est refroidi. Ensuite, quelle est la recommandation que le Christ nous donne? Voyez-vous, je dis, ça s'enchaîne. La Bible est un tout, on ne peut pas diviser. Si vous êtes en Christ, vous avez la force, vous tenez sa main, vous marchez avec lui, autrement dit, vous persévérez. Verset 13, c'est ce que le Christ a dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà les conditions. Donc, si vous persévérez dans ces moments difficiles, que ce soit tragédie, que ce soit attaque, que ce soit persécution, que ce soit maladie, n'importe. Si vous persévérez à tenir la main du Christ, vous ne craindrez pas l'avenir. Vous ne vous détournerez pas du Christ. Vous serez toujours accroché au cèpe. Alors vous avez votre salut. Vous serez sauvé. Ensuite, le Christ ajoute évidemment au verset que nous connaissons tous par cœur, cette bonne nouvelle. Mais de quoi s'agit-il, cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est la nouvelle du retour du Christ. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle que le Christ établira son royaume sur cette terre. La bonne nouvelle, c'est que ce monde aura l'occasion de comprendre, une fois pour toutes, ce que vous comprenez aujourd'hui grâce au Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est que nous autres qui sommes appelés maintenant, nous serons transformés en êtres spirituels lors du retour du Christ. La bonne nouvelle, c'est qu'un jour, le monde entier aura cette occasion que vous avez maintenant, vous et moi. Commencez-vous à comprendre? Certes, nous avons des jours difficiles devant nous, mais nous avons besoin d'avoir peur. Non, au contraire, car le Christ est avec nous, nous devons persévérer. Mais regardez ici, puisque nous parlons des choses qui vont se passer, puisque je vous parle de ne pas craindre l'avenir, regardez voir dans la prophétie du Christ, même dans les paroles même qu'il prononce, regardez l'avertissement qu'il nous donne. C'est pourquoi je vous demande, êtes-vous prêts au pire, avec courage, sans perdre votre confiance en Dieu? Car le Christ dit au verset 21, Matthieu 24, 21, « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura point. » Wow! finira jamais. Regardez voir. Nous avons eu à travers l'histoire des atrocités incroyables. Nous avons eu dernièrement la Première Guerre mondiale où des millions ont été massacrés. Ensuite, nous avons eu la Deuxième Guerre mondiale ou encore pire. Et c'était le carnage humain. Les holocaustes. Nous avons vu tout ça. Les gens, les familles se mangeaient les uns les autres. Eh oui, dans les camps de concentration. Les gens n'avaient pas de quoi manger, donc ils se tuaient. Et ils mangeaient la chair de leur prochain. C'est terrible de parler de ça. Donc nous avons vu tout cela, ou nous avons entendu de tout cela. Et le Christ dit que la détresse qui est devant nous sera encore pire. Humainement parlant, nous avons de quoi nous décourager, mais ça c'est humainement parlant. Si le Christ est avec nous, si nous croyons en Dieu, si nous faisons notre part, nous n'avons pas besoin de craindre cela, car Dieu nous protégera, Dieu nous aidera, et Dieu nous donnera la force dont nous avons besoin pour faire face à l'adversité. Matthieu 24, un chapitre fantastique, qui vous donne ce qui va se passer. Ensuite, le Christ dans sa bonté, même pour ceux qui ne comprennent pas la Bible, il met cette prophétie à la compréhension de l'homme moyen, même de l'homme moyen qui n'est pas converti. Notez-le. Il parle de son retour, il dit que personne ne sait quand il viendra, et ensuite il donne un exemple. Il dit, verset 36, Matthieu 24, verset 36. Alors là, vous n'avez pas besoin d'être converti pour comprendre ce qu'il dit. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'esprit de Dieu pour comprendre ce que le Christ annonce ici. Il parle dans un langage qui est clair, car nous voyons, regardez autour de vous, mes frères et mes sœurs, regardez voir, je répète, la corruption dans les mœurs. Alors il dit, verset 36, Matthieu 24, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, sauf le Père. Ce qui arriva, verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au second avènement du Christ. Mais qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. La Bible ne se contredit pas. La Bible nous montre exactement ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Alors, si la question des temps de la fin, Genèse chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de l'homme, de leur cœur, se portaient chaque jour. Regardez-moi, c'est superlatif. Toutes les pensées, chaque jour, se portaient uniquement vers le mal. Vous voulez être des superlatifs? Regardez voir ça. Toutes les pensées, chaque jour, uniquement vers le mal. C'était l'époque de Sodome et Gomorre. Donc, c'était la corruption terrible. C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Et le Christ a dit, n'oubliez pas que les jours qui viennent sont encore pires. Alors, revenez maintenant à Matthieu 24. Donc, le Christ a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement de l'homme. Parce que les gens, n'est-ce pas, donc, vivaient de cette façon-là, et ils s'en fichaient de tout, jusqu'au moment, dit-il, où Noé entra dans l'arche, verset 38-39, et les hommes ne se doutaient encore de rien. Voyez-vous, ça c'est des avertissements que le Christ nous donne pour nous permettre de comprendre ce qui va se passer. N'ayez pas peur, mais soyez prêts. Voilà le secret. N'ayez pas peur, mais soyez prêts. Et vous pouvez sûrement être prêts, car le Christ est avec vous et vous lui tenez la main. Marc, chapitre 13. Marc chapitre 13, encore une autre façon de nous encourager, de nous dire comment être prêt à toute éventualité. Marc parle ici de la même chose que dans Matthieu 24, vous avez vu. Ensuite, il nous donne des recommandations très strictes. Marc 13, verset 33. Prenez garde. Quel est mon sermon aujourd'hui? C'est de vous dire, prenez garde, n'ayez pas peur. Prenez garde, dit-il, veillez et priez. Mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas craindre lorsque vous veillez et priez. Vous ne pouvez pas douter de Dieu lorsque vous veillez et priez. Vous ne pouvez pas quitter l'église de Dieu, la véritable, lorsque vous craignez, lorsque vous priez et veillez. Il dit, veillez et priez, parce que vous ne savez pas quand ce temps viendra. Non, le Christ lui-même a dit, vous ne savez pas, nous ne saurons pas quand le Christ viendra, mais déjà nous pouvons voir, comme l'exemple qu'il donne, le figuier. Nous voyons que le temps est proche, le temps c'est mûr. Donc, préparez-vous. C'est maintenant qu'il faut vous préparer. C'est pas lorsque le moment, les choses arrivent. Et les mauvaises choses arrivent. Ça sera trop tard, peut-être, pour vous. Si aujourd'hui, dans le calme, entre guillemets le calme, vous pouvez vous préparer, vous avez beaucoup plus de force d'être prêt que lorsque les choses iront mal. Parce que lorsque les choses iront mal, vous n'aurez pas peut-être ce calme que vous avez maintenant. Alors, il parle donc d'être fidèle, d'être un bon serviteur. Marc 13, 33, il répète, veillez donc, dit-il, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, du Christ, le soir, le matin, vous ne savez pas. Et ensuite, il dit qu'on a cette tendance de dormir, voyez-vous. C'est pas le moment de dormir maintenant. Nous devons être prêts à toute éventualité. Nous devons toujours être éveillés. Pour, spirituellement parlant, car nous savons que les choses iront mal et que nous ne craindrons pas l'avenir. Non, il ne faut jamais craindre l'avenir. Mais seulement, la seule garantie que vous avez, si vous vous accrochez au cep. Ensuite, il répète, il dit, le maître de la maison arriva, ne craignez pas, dit-il, mais ne soyez pas endormis. Et il répète au verset 37, ce que je dis à vous tous, veillez. C'est beau tout ça, c'est magnifique tout ça. L'Église de Dieu, je répète, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ ne peut pas être séparé du Christ. Vous pouvez avoir beaucoup d'églises, entre guillemets, mais si le Christ n'est pas, si le Christ n'est pas le chef, ce n'est pas l'Église de Dieu. Ce n'est pas le corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est donc l'Église, vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà des simples vérités. Nous sommes tous aujourd'hui, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, membres du corps du Christ. Le corps du Christ a plusieurs membres. Il y a un seul corps, mais plusieurs membres. 1 Corinthiens 12. Ce sont des chapitres simples que nous connaissons déjà. Mais ces chapitres simples doivent nous aider maintenant, alors que relativement c'est le calme, pour nous préparer aux mauvais jours qui sont devant nous. Soyons courageux. Mais pour être courageux, je répète, restons dans l'Église de Dieu, dans le corps du Christ. Dans la tête, c'est le cep, c'est le Christ. 1 Corinthiens chapitre 12. Ce sont des simples vérités que nous connaissons. Et pourtant, lorsque les choses se gâtent, nous les oublions. À quoi bon de comprendre la vérité si au moment voulu, vous n'êtes pas prêt à la mettre en pratique? À quoi bon savoir ce qui va se passer si, lorsque ça arrive, vous vous découragez? À quoi bon, je répète, veiller et prier lorsque vous n'avez pas cette certitude que le Christ nous montre dans la Bible, de savoir que le Christ entend ce qu'il dit et qu'il sera toujours avec nous? Le vrai christianisme, c'est une religion vivante. Nous devons vivre notre religion. Et non pas seulement proclamer ou prêcher. Si nous ne vivons pas notre religion, nous ne sommes pas chrétiens. Revenez, 1 Corinthiens 12, au verset 12. Là encore, tâchez de comprendre, mettez-vous à genoux s'il le faut devant Dieu, dites à Dieu, écoute Dieu, aide-moi à mieux comprendre, à mieux me préparer face à l'avenir. Il dit, car comme le corps est un, voyez-vous, il n'y a pas plusieurs corps du Christ. Le Christ n'a pas bâti plusieurs églises. Le Christ a bâti une seule église. Il est le cep d'un seul corps. Et dit-il, il y a un seul corps, mais dit-il, il y a plusieurs membres. C'est clair, un seul corps, mais plusieurs membres, verset 12. Nous avons tous, dit-il, en effet, été baptisés dans un seul esprit, c'est l'esprit du Christ, pour former un seul corps. Écoutez, combien de fois faut-il répéter ces choses afin que nous, des gens charnels, comprenions ces simples vérités? Ensuite, il montre, vous n'avez qu'à lire, comment chaque membre a une part différente à jouer. Les yeux sont différents des oreilles, le pied est différent des bras, ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul donne cet exemple? C'est simple. Parce que nous avons tendance, nous autres humains, à regarder autour de nous, à envier les autres. N'enviez jamais personne. Dieu vous a donné les talents dont vous avez besoin pour parvenir au but pour lequel vous avez été créé. Vous ne pouvez pas arriver au but avec mes talents à moi. Vous arriverez avec vos talents à vous. Que vos talents soient minimes ou non, ça n'a pas d'importance. Dieu vous donne la compréhension pour arriver au but avec ce qu'il vous a donné. Ayez ça en tête, et cette certitude vous donnera la force dont vous avez besoin pour aller de l'avant avec force, courage, espérance. C'est ce qu'il dit. Donc, chaque membre est important. Et il ne faut pas que les membres s'envient ou bien portent la jalousie les uns vers les autres. Mais encore, lisez le reste. Et ensuite, l'apôtre Paul même nous montre que Dieu porte plus d'attention, fait plus attention aux membres qui sont les plus faibles. Intéressant. Je vois souvent dans l'Église de Dieu, même lorsque je voyage, de simples personnes, de simples gens qui ont une attitude fantastique. Et pourtant, certains d'entre eux n'ont jamais eu d'éducation au sens propre du terme. Je connais dans l'Église de Dieu des gens qui sont simplement simples, mais une attitude fantastique. Et c'est cette attitude que Dieu apprécie. Eux, ils ne regardent pas ailleurs pour envier quelqu'un, pour envier quelque chose. Mais ils tâchent de plaire à Dieu. Si vous tâchez de plaire à Dieu, vous n'aurez jamais peur de l'avenir. Ne tâchez pas de plaire aux hommes, à moins que ce soit d'après la parole de Dieu. Mais tâchez en toutes choses, en toutes circonstances, de plaire à Dieu. Votre attitude doit être une attitude chrétienne, dont l'apôtre Paul, par exemple, parle partout ailleurs. Prenez Galates, chapitre 1, par exemple. Non, Galates, chapitre 6. C'est intéressant de voir l'attitude que nous devons tous avoir. Galates, chapitre 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, c'est-à-dire vous êtes spirituels dans le sens que vous avez l'Esprit de Dieu, redressez-le avec un esprit de douceur. Voilà notre attitude. Voilà ce que c'est qu'être chrétien. Nous devons faire notre part pour pouvoir aider notre prochain, afin qu'il puisse voir cette vérité dont nous connaissons, dont nous parlons ici dans la Bible. Ensuite, prenez garde prends garde à toi, même dit-il, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez, dit-il, les fardeaux les uns des autres. Voilà la façon de ne pas envier votre prochain. Voilà la façon d'être proche de Dieu. Voilà la façon de ne pas craindre l'avenir. Eh oui, plus vous faites du bien à votre prochain, plus vous avez la garantie que vous serez protégé par Dieu. Eh oui. Ensuite, dit-il, portait donc les fardeaux des uns des autres. Si quelqu'un pense être quelque chose, verset 3, quoi qu'il ne soit rien, vous savez, je viens de vous dire, nous ne sommes rien, c'est comme la fleur des champs, la fleur de l'herbe. Donc, nous ne sommes rien. Quoique nous soyons rien, dit-il, il s'abuse lui-même. Que chacun, verset 4, Galates 6, que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non pas par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Voilà le secret d'arriver. Ce que je vous dis maintenant, ce n'est pas nouveau. Autrement dit, les gens, dès le commencement, ont douté de Dieu. Lorsque le Christ est arrivé sur cette terre, certains ont cru. Beaucoup se sont fait baptiser. Et pourtant, lorsque les choses se sont gâtées, ils ont quitté le Christ, comme vous avez vu dans 1 Corinthiens chapitre 1. L'apôtre Paul répète cela dans Galates. Cette fois-ci, chapitre 1, il montre exactement ce qui peut arriver, ce qui est arrivé. Imaginez, le Christ était mort, ressuscité quelques années auparavant. Et qu'est-ce qui se passe? Alors qu'eux, ils avaient le témoignage du Christ, alors qu'ils avaient eux, l'apôtre Paul avec eux, alors qu'ils voyaient tout cela, voilà encore certains d'entre eux se laissent convaincre par le mensonge, suivre les mensonges de Satan, veulent être comme les autres de par le monde. Ils veulent établir leur propre doctrine, leur propre évangile. Donc, pourquoi s'étonner si aujourd'hui la même chose se répète? Galates chapitre 1, verset 6. Paul dit, je m'étonne. L'apôtre Paul, qui a vu tout cela, qui a été témoin de cela, il voit cette corruption dans les mœurs et en même temps ce détournement dans ce qui concerne de la vérité. Il dit, je m'étonne, dit-il, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Autrement dit, Paul, lui qui a tellement souffert, il a souffert et il a voulu donc appeler ces gens à la vérité, il a enseigné, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si facilement de tout cela. Pour passer à quoi? Pour passer à un autre évangile. Un évangile qui n'est pas l'évangile, qui n'est pas la parole du Christ en disant le royaume de Dieu sera établi sur cette terre, que le Christ reviendra et que tous, un jour, auront l'occasion de comprendre, d'apprendre et d'être changés en être spirituels. Il dit, passez à un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile. Il vous trouble. Ensuite, il va un peu plus loin, verset 8. Quand même un ange du ciel, et c'est arrivé dans la Bible, Dieu a permis ceci, un ange du ciel annoncerait un autre évangile, dit-il, que celui que nous avons prêché, qui soit anathème. C'est faux, ces choses-là. Donc, plutôt que de vous décourager, ayez cette certitude. Dieu vous a appelé et Dieu ne vous abandonne pas. C'est vous qui l'abandonnez. C'est vous qui vous détournez de lui. Dieu est toujours avec lui, avec vous. Mais si vous commencez à donc chercher un autre évangile, chercher une autre aide quelque part ailleurs, alors là, vous êtes dans le mauvais chemin. Et l'apôtre Paul, deux fois, il dit qu'il soit anathème, ceux qui suivent ce chemin-là. Alors, commençons à grouper maintenant toutes ces choses. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée chapitre, je pense 1 Timothée chapitre 2. Dieu veut que tous soient sauvés. Mais tous ne seront pas sauvés à moins que ces tous, ou bien ces gens-là, ou tout le monde, vraiment fassent ce que vous faites aujourd'hui. Autrement dit, tout le monde aura l'occasion de comprendre ce que vous comprenez maintenant. Tout le monde aura l'occasion d'observer les sabbats, d'observer les fêtes, d'observer les commandements de Dieu. Mais c'est toujours en toute liberté. Vous n'êtes pas forcé aujourd'hui à obéir à Dieu. Vous êtes libre. Moi, je suis libre. Nous pouvons à tout moment nous détourner de Dieu. Donc, cette même vérité se répétera avec tout le monde. Tous, lorsque le moment viendra d'être appelés, auront cette liberté. Aujourd'hui, vous pouvez changer totalement de direction, de chemin, vous dites, bon, je quitte. Bon, vous payez les conséquences. Ce faisant, vous avez perdu cette certitude. Vous n'êtes plus membre du CEP. Dieu est bon. Dieu fera tout pour qu'il vous donne l'occasion de comprendre cela et vous protégera. Votre part, c'est ça qui compte. La plupart du temps, ces choses-là n'arrivent pas parce que, voyez-vous, nous commençons à penser à notre façon, à la façon de plaire à la nature charnelle. C'est intéressant car l'apôtre Paul a écrit 14 épîtres dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul a parlé de choses parfois qui sont difficiles à comprendre. Du reste, l'apôtre Pierre lui-même a dit, il y a dans les écrits de Paul des choses difficiles à comprendre. Bon, alors, aujourd'hui, regardez autour de vous. Le christianisme est divisé en plusieurs centaines, je dirais, voire milliers, de sectes et de confessions. Pourquoi? Sur quoi se base-t-il? Sur l'évangile de Matthieu? Non. Sur l'évangile de Marc? Non. De Jean? Non. Sur les autres apôtres comme Pierre? Non. Principalement, ils prennent l'apôtre Paul. Car c'est l'apôtre Paul qui sincèrement a dit, vous n'avez plus besoin d'observer le sabbat. J'ai bien sincèrement dit. C'est l'apôtre Paul qui a dit, les fêtes de Dieu, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'apôtre Paul qui a dit, vous pouvez manger de tout. Autrement dit, ils prennent les écrits de l'apôtre Paul, comme quoi, vous n'avez plus besoin d'obéir à Dieu. Mais écoutez, c'est idiot, c'est ridicule. Car l'apôtre Paul lui-même a donné sa vie pour prêcher la vérité. Pour prêcher que vous devez toujours obéir à Dieu. Regardez ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Comment est-ce que l'apôtre Paul pouvait dire quelque chose qui soit contraire à ce que le Christ a dit, lorsque lui a prêché cette vérité, lorsque lui a donné sa vie, lorsque lui, en toute franchise, en toute honnêteté, dit, regardez-moi, 1 Corinthiens 11, « Soyez mes imitateurs », verset 1. Mais regardez-moi, « Soyez mes imitateurs », suivez-moi comme je suis moi-même du Christ. Voilà le secret. Le Christ n'a-t-il jamais transgressé les lois divines? Non. Le Christ n'a jamais péché, dit l'apôtre Pierre à plusieurs reprises, et aussi dans la Bible. Donc, le Christ n'a jamais péché. Et l'apôtre Paul dit, « J'ai suivi le Christ et comme vous-même, vous devez tous suivre le Christ. Faites comme moi. » Alors, comment pouvez-vous prendre l'apôtre Paul en disant que c'est lui qui nous a dit maintenant que les lois divines ne sont plus valables? Voyez-vous, ça ne prend pas beaucoup d'imagination pour comprendre la vérité. En ce monde, aujourd'hui, et ça sera de plus en plus, je dirais, mauvais lorsque les choses iront mal, en ce monde, vous aurez toutes sortes de tentations pour vous détourner de Dieu, pour chercher des excuses dans la Bible, pour vous dire, bon, ce que je pensais, c'est plus correct, je suis libre de faire ce que je veux, et c'est vrai, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ce faisant, vous vous détournez de Dieu. Si vous avez cette compréhension que les choses iront mal et que Satan ira de plus en plus fort pour vous décourager, là, alors vous serez sur vos gardes. Comme Marc a dit, veillez et priez. Mes frères et mes sœurs, à travers la Bible, nous voyons une chose qui est absolument certaine. Dieu veut que nous puissions arriver au but pour lequel nous avons été créés. Dieu ne veut pas que nous craignions l'avenir. Dieu ne veut pas que nous cédions aux tentations de Satan le diable. Satan est toujours là. Satan est toujours le Dieu de ce siècle. Satan fera tout pour détruire l'Église, pour détruire chaque être humain aujourd'hui qui est appelé de Christ et de Dieu. Mais Dieu est plus fort que Satan. Satan ne peut absolument rien faire sans la permission de Dieu. Et la raison pour laquelle Satan existe, la raison pour laquelle Dieu a permis à Satan de séduire l'homme, c'est que Dieu veut que l'homme puisse avoir la liberté de choisir. Voilà. c'est une épreuve. Et durant cette épreuve, Dieu qui est plus fort que Satan, Dieu qui a créé même Satan en tant que Lucifer au commencement, Dieu nous donne toute la force dont nous avons besoin pour arriver au but. Alors, une fois que vous comprenez cela, pouvez-vous vraiment craindre l'avenir? Pouvez-vous vraiment dire, non, je n'en peux plus? Non, tout est clair, tout est facile à voir, mais préparez-vous. Préparez-vous d'avance. Comme dans les proverbes, je voulais vous citer, mais je n'ai pas le temps, Dieu nous compare aux fourmis. Dites, faites comme les fourmis, dit-il. Elles se préparent déjà en été pour l'hiver. Mettez de côté ce dont vous aurez besoin plus tard. Préparez-vous, prêtez oreille aux avertissements que vous recevez, qui seraient justes, comment vous préparez aux jours mauvais qui sont devant nous. Ce faisant, vous ferez votre part. Mais avec tout ça, mettez votre confiance en Dieu, car c'est Dieu, Dieu seul, qui vous donne la protection finale. Et terminons avec une recommandation magnifique de l'apôtre Paul, puisque nous parlons de Paul. Lui qui a tellement souffert, lui qui a fait face à toutes les épreuves, lui qui a donné sa vie, l'apôtre Paul, quel a été son secret? Son secret était simple. Il avait promis à Dieu, écoute Dieu, montre-moi la voie et je ferai. Car Dieu, lorsque Dieu l'a appelé, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lorsque Dieu lui a révélé ce qu'il fallait faire, l'apôtre Paul ne s'est jamais détourné de cette vérité. Vous-même, vous ne devez jamais vous détourner de cette vérité. Si vous avez appris la vérité, si vous êtes membre du corps du Christ, vous ne pouvez jamais vous en détourner. Et comment feriez-vous? Quelle est votre garantie? Paul vous le donne dans Romains, chapitre 8. Chapitre 8. Gardez voir cette force de caractère. Mais tout est toujours basé sur le Christ, sur la force du Saint-Esprit. Il parle des difficultés, des problèmes, des mauvaises choses, Romains 8. Ensuite, il dit, verset 37, Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, dit-il, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas par nos forces à nous, par la force du Christ, par le Christ qui nous aimait. Car, dit-il, j'ai l'assurance, voyez-vous, l'assurance n'a pas de place pour les doutes. J'ai l'assurance, dit-il, que ni la mort, il ne faut pas craindre la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, les pires choses dont le Christ a parlé, ni les puissances céleste ou terrestre, ça n'a pas d'importance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Vous savez, ce sont des choses fortes. Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà votre force. Avec cette force, vous ne craindrez jamais l'avenir. Au contraire, vous aurez toujours cette joie de vivre, la joie qui est du domaine spirituel. Et quoi qu'il arrive, vous remercierez Dieu de ce qu'il est votre Père. Vous remercierez le Christ de ce qu'il lui a donné sa vie afin que vous puissiez un jour hériter de la vie éternelle.